On vous a fait écouter un carillon. C'est une manière que l'on a d'aider nos participants à faire un moment d'écoute. Puisqu'aujourd'hui, le thème de notre émission, ce sera autour de l'écoute. On a vécu cet atelier avec le groupe des gens venant en participer. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler de ce qui va nous aider à être plus à l'écoute dans la communication. Voilà, donc je suis accompagné aussi de mon épouse qui a sûrement des choses importantes à nous dire.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de écoute, hein, donc quelque chose qui est important pour chacun de nous, car on écoute ou sinon on écoute les autres, sinon les autres nous écoutent toute la journée en fait. C'est comme ça que la vie fait qu'on partage avec les autres. Donc voilà, je te passe la parole, Alexandre, pour commencer.
Ok, alors la première partie. Première attitude, ce qui va nous aider à être dans l'écoute, ça va être de revenir à ce qu'on appelle, nous, la réceptivité. Donc, notre cerveau a deux fonctions. Soit il émet, alors il émet, c'est-à-dire qu'il nous donne des idées, il interprète la réalité, il va donner son avis, il va planifier, etc. Donc, c'est des fonctions qui sont importantes pour nous organiser. Par contre, quand on rentre dans l'écoute et à l'accueil de quelqu'un, et il va falloir changer de polarité, c'est-à-dire comme on va écouter, par exemple, c'est pour ça qu'on vous a fait écouter un carillon, c'est parce qu'on revient à la réceptivité, et là, il faut juste accueillir ce que l'autre a à nous partager. Et là, il rentre effectivement plein de mécanismes intérieurs qui se passent.
Donc en fait, dans l'écoute, quand on est dans la réceptivité, on va avant écouter l'autre, on va aussi écouter ce qui se passe chez soi. Donc c'est ça qui va commencer, c'est comme ça qu'on va commencer l'écoute. L'écoute, on va commencer chez soi. Donc on va déjà valider si on est prêt à l'écoute. Est-ce qu'on est disponible? Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut déjà écouter ce qui se passe chez moi? Est-ce que je me sens détendue? Est-ce que je suis en vert, on peut dire, dans ce sens-là?
Alors, donc chacun a sa manière à soi. Donc dans l'atelier, on partage justement, c'est la manière et la pédagogie que l'on a, c'est qu'on va partager sur qu'est-ce qui permet à chacun d'être ouvert, c'est-à-dire d'être à l'écoute. Donc certains ont besoin de différentes choses pour se sentir disponible. Moi personnellement, j'aurais besoin d'un environnement plutôt calme, posé, de gens qui ne parlent pas trop fort. Voilà, donc j'ai besoin. Il y a l'environnement qui peut être important. Voilà, il peut y avoir aussi l'attitude de la personne en face de moi. Voilà. Et donc, on a défini comme ça différents critères qui sont importants, qui nous permettent d'être plus à l'écoute. Voilà. Justement, ce qui est intéressant, c'est que nous, on aime bien aussi faire en sorte que ça se symbolise et qu'on garde un souvenir aussi de ce qu'on fait dans les ateliers. Là, par exemple, moi, j'ai créé un bâton de parole. Là, on ne peut pas le voir. On le prendra en photo tout à l'heure pour les auditeurs. Hein. Voilà. J'ai créé un bâton de parole. Alors, au bas de mon bâton de parole, j'ai mis. Bon, il est fait avec un morceau de bambou, mais en bas, il y a un escargot. Parce que pour moi, le symbole de l'escargot, c'est quelque chose qui va lentement, qui sort ses antennes. Qui ressent un petit peu, ah tiens, là, c'est bon, j'avance, ah, je recule, ouais, c'est vraiment symbolique pour moi, dire un peu de quitter un peu la précipitation des fois dans lequel on est. Voilà. Après, mon bâton de parole continue. J'ai écrit quelques conditions importantes pour mon écoute. Alors, la respiration, par exemple, j'ai besoin de prendre le temps de respirer, d'accueillir ce qui se passe, de patienter, d'être patient. Voilà. Après, il monte à un autre étage, c'est au niveau du cœur. J'ai dit, bon, il faut que je reste plutôt dans quelque chose avec le cœur ouvert, la joie intérieure, etc. Dire, voilà, j'accueille la personne avec une intention bienveillante, positive. Bon, c'est mieux la comprendre, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce que je pourrais faire. Et puis, j'ai mis dessus une demi-noix de coco, qui est vraiment le symbole de. Voilà, c'est quand même l'espace d'accueil, quoi, qui vaut. Voilà. Donc. Voilà, moi je suis content de mon bâton de parole. Les gens me disent c'est un vrai sceptre, on est vraiment le roi de l'écoute. Enfin bon,
Donc
on
c'est
essaye.
important de symboliser avec un objet quand on Est-ce que j'imagine que quand on discute en famille ou en réunion, on va pas se faire passer ce bâton de parole, mais
à quoi que dans une famille qui a envie de progresser, bah, dans les familles qui viennent nous voir, justement, on a chacun fait son bâton de parole. Elle avait pour donc dans l'exercice qu'on faisait ensemble, elle devait le réaliser pour elle-même. Avec les enfants aussi, on fait le leur, etc. Et ils l'ont ramené chez eux. Donc, on leur demandera la prochaine fois comment ils l'ont utilisé ou pas. Mais ça peut être une occasion de l'utiliser. C'est amusant.
Donc, comment ça se passe dans votre atelier? Vous faites passer le bâton de parole. Ça veut dire que, voilà, une fois qu'on tient ce bâton de parole, c'est à nous de parler et on ne peut pas être coupé.
Donc, c'est vrai, cette bâton de parole va nous aider à dialoguer. Donc, quelqu'un qui veut prendre la parole, prendre le bâton, et pendant ce temps-là, les autres sont à l'écoute. Et ils ne vont pas l'interrompre. Comme ça, il peut vraiment aller jusqu'au bout de ses pensées. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider dans une écoute ou dans un dialogue. Parce que dès qu'on ne laisse pas quelqu'un aller jusqu'au bout de ses pensées ou de ses sensations ou ce qu'il vit, ça va créer une frustration chez lui. Il va se sentir irrité et ça va monter la pression. Et comme ça va monter la pression, on va vouloir l'abaisser en peut-être montant un peu plus. Et ça peut créer effectivement un dialogue qui n'est pas du tout désiré. Parce que c'est notre attention dans un dialogue, ce serait aussi de se faire écouter. Ça veut dire qu'on peut transmettre le message que j'ai envie de transmettre pour que l'autre puisse le comprendre. Et après, ça peut être utile. Mais si, voilà.
Donc, première chose dans une communication, c'est de vérifier si l'autre est disponible et si soi-même on est disponible. Voilà, pour la communication. Et pour ça, pour pouvoir être vraiment connecté.
Alors, il y a des méthodes qui symbolisent ça d'une manière amusante parce qu'elles prennent la main comme un modèle du cerveau en disant que le cerveau, enfin, la partie limbique émotionnelle, elle le représente par le pouce, par exemple. Voilà, et puis, quand on pose les doigts sur le pouce, on ferme la main, là, on a, on va dire, notre système plutôt, notre cerveau cognitif qui est disponible, qui peut être là pour, je dirais, mettre de la structure, de l'ordre ou de la modération, on va dire même carrément, hein, capable de modérer. Voilà, alors quand on est comme ça et qu'on dialogue ensemble, on va dire qu'on peut dialoguer d'une manière correcte. Mais si jamais il y a quelqu'un dont les émotions sont allumées, on va dire quelles qu'elles soient, et que nous, on est aussi en train d'allumer nos émotions mutuellement, que ce soit des émotions de tristesse, de colère, de quelles qu'elles soient, on va faire monter l'émotion. Et alors le dialogue sera de moins en moins précis. Mmh. Et bon, il risque de partir dans des relations qu'on ne souhaite pas partager, quoi.
Alors, comment éviter de faire monter l'émotion pour pouvoir s'exprimer jusqu'au bout sans être non plus pour l'autre une poubelle
Alors, tu as envie d'en dire quoi?
Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui peut nous aider. Parce qu'en fait, quand, au moment où on est déjà dans l'action, c'est difficile, en fait, de revenir à cette réflexion. Mais ce qu'on peut faire en avant, réfléchir, ce qu'on fait dans les ateliers aussi, savoir à quel moment on dérape, à quel moment ça commence à monter ou quel moment on n'est plus disponible. Et ça, c'est souvent lié à ce qui se passe à l'intérieur de soi quand on écoute quelqu'un. Parce qu'en fait, sinon on n'est pas disponible tout à fait, on est fatigué, on a eu une journée très chargée, etc. Donc c'est vrai qu'il y a déjà cette partie-là, donc ça demande d'être authentique avec soi, être aussi connecté avec soi en disant, d'accord, je suis fatigué, je ne suis pas disponible, donc est-ce que je pourrais dire à la personne, je sais que tu as envie de me parler, mais là, je ne me sens absolument pas disponible. Donc là, ça revient à être aussi à l'écoute de soi et authentique dans la communication en disant, je ne suis pas disponible. Et c'est vrai, des fois, ce n'est pas facile à juste se montrer faible aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi un endroit à... On apprend un petit à petit en disant que ça peut sauver, en fait. Ça peut être un gain en place d'une perte, de dire que je ne suis pas disponible. Donc ça, c'était la première chose qu'on peut faire déjà. Et après, aussi, s'il y a des choses qui répètent dans le schéma avec une personne ou avec une autre, voir qu'est-ce qui se passe dans tous ces moments-là. Essayer d'observer. Est-ce que c'est toujours la même chose qui se passe? Est-ce que je suis dans l'attente de quelque chose ou est-ce que, donc on va vous parler en fait de certaines choses qui peuvent passer à l'intérieur de nous, donc les pensées qui peuvent passer, les messages qui viennent, qui sont des jugements ou des, d'autres différentes choses, qui fait que un petit à petit, on n'est plus en fait à l'écoute de la personne en face, on commence à être plus à l'écoute de ce qui se passe chez nous et on n'est plus disponible. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaye d'identifier, faire à mesure, qu'est-ce qui fait qu'on se décroche. Mm-hmm. Ou à quel moment il y a quelque chose qui commence à monter en nous. Et à ce moment-là, peut-être, ça c'est juste un début, c'est vrai qu'il faut qu'on soit très, très, très bienveillant avec soi. Ça c'est quelque chose qui est important parce qu'on doit être très, très bienveillante avec soi. Donc, juste dire, ok, là, c'est en train de déraper. Mm-hmm. Est-ce que j'arrive à le voir ou pas? Sinon, si je dérape, et voilà. Mm-hmm. Je peux toujours revenir en disant, excuse-moi, j'ai dérapé. Donc ça, c'est des petites choses qu'on va un petit à petit mettre en place.
C'est vrai que de toute façon, il y a des moments où on n'est pas disponible parce qu'on a quelque chose qui nous trouble intérieurement. Et quand ce trouble est là, on n'est pas toujours capable de l'apaiser facilement. Donc je pense que c'est ce que disait mon épouse, c'est qu'il faut se donner des temps pour ça. Et ça, c'est... Je pense que c'est la précipitation. C'est pour ça que j'avais commencé par mon petit escargot. Mmh, mmh. C'est comment on peut apaiser cette précipitation qu'on a de vouloir résoudre des choses, qu'on a de vouloir exprimer ce qu'on vit intérieurement. Donc, cette prise de temps. Ça s'entraîne. Je pense que l'autre aspect, c'est qu'il ne faut pas attendre la crise pour se dire il faudrait que je fasse. Mmh. C'est vraiment en dehors des moments de crise qu'on s'entraîne. On ne va pas aller faire un championnat ou un marathon sans avoir pris le temps de s'entraîner. Donc voilà, la question finalement pour tous, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à prendre du temps pour pratiquer, m'entraîner à des moments justement d'apaisement avec moi-même avant d'être en présence des autres, voilà, ou mettre dans une situation difficile. Donc la question fondamentale, elle est là finalement. Et l'époque fait pas, nous aide pas aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a tellement de sollicitations, de possibilités, on est...
C'est le zapping en ce moment. C'est le...
Voilà, on en parle.
On n'est pas forcément dans l'attente et la patience. C'est ça me plaît pas, je zappe.
Il peut y avoir cette attitude-là, effectivement, le zapping, ouais. Effectivement, peut-être aussi par rapport à des gens qui sont ensemble, ils prennent pas le temps de s'écouter, de se connaître, d'accepter qu'il y a des choses qui sont moins faciles et qu'on peut les améliorer, et ils préfèrent rompre la relation. Donc c'est effectivement aussi des choix qu'on fait aujourd'hui, à notre époque. Voilà, on parle aussi du zapping de la relation. Ouais.
Et oui.
Nous, on n'est pas trop dans ce cas-là, ça fait 33 ans qu'on essaye de mieux communiquer ensemble. Alors on progresse petit à petit, on fait des progrès. On fait des progrès.
Si on peut dire, leur entraînement, ça ne demande pas beaucoup de temps. Hein. Ça peut être même 5 minutes, ici par là. Le fait, c'est de faire cette choix, de dire, est-ce que moi, j'ai envie. Donc, en fait, on fait tous... Ça n'existe pas. Automatiquement, on n'est pas né avec l'éducation de comment parler avec les autres. Mm-hmm. C'est une chose qu'on apprend dans la vie.
Avec l'expérience.
Ouais, surtout avec l'expérience. Et on rappe. C'est comme quand on apprend à marcher. On ne marche pas dans le premier jour quand on a mis les pieds par terre. Il y a plein de... Ça prend beaucoup de temps. On tombe plusieurs fois, on se fait mal. Et chaque fois, on se lève, en fait. Parce que si on avait resté sur les quatre pattes, on n'aurait jamais marché. Mm-hmm. Parce que là, c'est la fait de tomber qu'on a dit, d'accord, je peux redresser et recommencer. Donc là, on va... Ce qui est important, en fait, c'est de juste prendre ce choix, en fait. Parce que tout est possible. Tout est possible. Il y a des gens qui n'ont jamais fait des choses et petit à petit, ils ont appris à le prendre. Donc, à partir d'un moment, on choisit de faire juste une petite chose par jour. Ça peut être 5 minutes pour juste se détendre, marcher, juste écouter un peu de musique, respirer tranquillement et après prendre du temps, juste sentir qu'est-ce qui se passe chez moi. Parce qu'il y a des fois, c'est ça qui peut être dur. Aussi, je peux comprendre aussi, parce que ce qui n'est pas agréable des fois, c'est de se sentir quelque chose de désagréable. Un moment d'arrêter de dire que je suis tendue, que je sens quelque chose de pas agréable. Mais à partir du moment où on dit, d'accord, je sens ça et j'aimerais aller vers quelque chose de plus agréable, c'est seulement là qu'on peut. Donc la première chose, c'est le constat et après l'acceptation de ce qui est. On ne peut pas ne pas l'accepter. Parce que si on n'accepte pas, on ne peut pas faire l'avant. Donc, c'est vrai que ce que je pose, c'est beaucoup de choses. Mais c'est essentiel, c'est de dire, d'accord, je prends ces 5 minutes, de temps en temps dans la journée, je m'assois et j'essaie de juste respirer et sentir, même si au début, ce n'est pas agréable, mais en fait, de juste prendre quelques minutes avec moi, ça va m'apposer et ça va m'aider d'aller plus loin dans la journée, être beaucoup plus disponible, même pour soi et pour les autres. Donc, ça, c'est vraiment le choix qu'on a à faire et ça, personne d'autre ne peut le faire pour nous. On peut avoir plein de possibilités disponibles partout, plein d'informations, plein de cours, plein de gens qui nous racontent plein de choses. Mais si on prend le choix de le faire pour soi-même, personne d'autre ne le fera pour nous.
Donc être ouvert à l'écoute, bien reconnaître nos sensations avant de rentrer en communication avec quelqu'un. Mais si on est ouvert et à l'écoute et que ce que la personne vous dit en face va vous bousculer quand même dans l'agressivité, ou qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Même si on est préparé et que dit ou dans l'attitude de l'autre.
Je me suis dit la dernière fois qu'on avait fait l'émission, tu m'as parlé d'un sujet comme ça, c'est vaste. Donc ce qui serait important, ce serait de choisir quand même une sorte de situation, parce que sinon on parle de manière globale, mm-hmm. et c'est peut-être moins parlant pour les gens. Je peux essayer de réfléchir moi aussi à une situation où peut-être que. Oui, il peut y avoir, par exemple, des fois, on fait une demande à quelqu'un et on a un refus, on ne va pas être accueilli. Donc, ça va toucher chez nous sûrement des besoins importants, comme le besoin d'être reconnu, le besoin d'être...
d'être respecté.
Oui, de se sentir reconnu et accueilli dans ce qui est important pour soi ou ce qu'on aimerait contribuer, le besoin de contribution. Donc, moi, je peux penser à ce genre de situation... Voilà, où les personnes ne sont pas disponibles pour t'accueillir, par exemple, tel que tu es. Donc là, ça peut être effectivement sensible à ce moment-là. Je pense aussi à des situations quand on est en famille, par exemple. Quand on demande à un enfant de faire quelque chose et qu'il ne souhaite pas, par exemple, le faire tout de suite. Mm-hmm. Il est en train de jouer, par exemple, et on lui dit c'est l'heure d'aller à table. Et à ce moment-là... on sait qu'on est à l'emploi du temps à tenir, qu'après il faut aller à l'école ou je sais pas, etc. Donc il y a une tension qui monte et voilà. Donc,
et qu'est-ce qu'on fait alors ?
Il faut pouvoir accueillir. Bon, je vois bien que tu joues là, que c'est mm-hmm. important pour toi, que tu aimes jouer. Alors il faut peut-être mettre en perspective, tu sais, mais on a quelque chose à tenir à l'emploi mm-hmm. du temps. Il faut penser à ce que on a à finir et d'aller à l'école. Et puis on peut lui dire par exemple, tu vas pouvoir rejouer après, au retour de l'école, tu pourras reprendre ton jeu, en attendant, on va le mettre de côté. Et là, je pense qu'on est dans un processus d'expérimentation et de tâtonnement. Il n'y a pas de recette miracle. Donc on peut se donner, il y a des tas de livres qui décrivent comment on peut parler à un enfant, etc. Mais en fonction de ce qu'on est, il va y avoir différentes possibilités, il faut expérimenter. Et c'est là où moi je suis... Depuis des années que j'anime des ateliers, je propose aux gens un processus que j'appelle le processus merci. Bon, merci, alors, c'est-à-dire, quand on a une problématique quelconque, il faut se donner les moyens d'explorer quelque chose qu'on n'a pas encore fait, parce que si ce qu'on fait habituellement ne marche pas, il faut bien se donner les moyens de trouver autre chose. Donc on va explorer d'autres solutions, on va les expérimenter. C'est ce qu'on fait un peu avec les familles qui viennent à l'atelier. On voudrait définir on a commencé à évoquer le cadre dans lequel on va fonctionner dans la maison. Quelles sont les règles, qu'est-ce qui est les règles qu'on ne peut pas transiger, les choses qu'on peut discuter, les choses, etc. Donc, Voilà, donc il faut pouvoir se donner les possibilités d'expérimenter de nouvelles choses. Et puis, dans le merci, donc il y a les moyens d'expérimenter. Et après, le R de merci, c'est ressentir. C'est se donner le temps de ressentir, est-ce que ça marche? Est-ce que je me sens bien avec cette pratique? Est-ce que ça m'aide? Voilà. Voilà. Donc, après, si on voit qu'une pratique marche, on va choisir de la garder. Bon, le C de merci, ça va être choisir que cette méthode, elle nous convienne et on va essayer de l'appliquer plus régulièrement. Voilà. Si, par exemple, j'ai tendance à être très sensible quand j'entre à la maison parce que je travaille, je rentre, les enfants sont demandeurs de mon attention, mais je ne suis pas disponible. Si je choisis, avant de rentrer à la maison, de marcher, de respirer, de me détendre, de dire aux enfants, je ne suis pas disponible pendant un moment, je vais prendre une douche, je vais me reposer, mais après, je pourrai passer du temps avec vous. Ah, c'est bon, ça marche, ils acceptent, et ben, je l'intègre dans mon quotidien. Ça va devenir quelque chose que je vais intégrer dans mon quotidien et qui va être utile après. Et finalement, je vais avoir résolu mon problème avec cette méthode. Voilà, c'est une méthode de résolution de problème, finalement, hein, voilà, qu'on va proposer. Donc ça, c'est quelque chose d'important que j'aime bien proposer. Voilà. Tu veux dire quelque chose?
Ce que je disais, c'est que ce n'est pas toujours facile. Ça, il faut connaître. Il n'y a pas de... On ne peut pas vous donner aussi une solution toute prête.
Il n'y a pas de recette miracle. Il faut s'adapter à chaque fois.
Après, l'expérimentation, il y a beaucoup de possibilités, énormément de possibilités.
Tu peux en donner une autre?
Oui, je peux donner... Bien sûr. Alors, donc déjà, rien que dans notre démarche, parce que nous, ça fait déjà un moment qu'on a commencé à
essayer
de transformer cette dialogue qui, à un moment, nous dépassait complètement notre... Donc, on ne peut pas vivre comme ça, parce que si c'est pas le lien qu'on voudrait créer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand quelque chose ne se passe pas bien dans la communication, ça nous heurte. Et ça crée quelque chose de pas agréable dans la relation. Et c'est ça quelque chose qu'on ne voudrait pas entretenir, parce que si on l'entretient, ça vient quelque chose qui mettre les miettes partout et après on ne s'en sort plus. Et ça reste un stress, on a même peur, on essaie d'éviter et ça vient quelque chose de désagréable. Donc, à partir du moment où on dit d'accord, on voudrait avancer, il faut savoir que ça ne va pas changer tout de suite, mais chaque petit pas qu'on va faire va nous ouvrir un espace un petit peu plus. Donc, par exemple, ça nous arrive encore des fois de, par exemple, pas être à l'écoute ou couper ou donner notre avis rapidement parce que ça dépend de notre disponibilité ou quelque chose comme ça. Mais le fait de juste reconnaître que l'autre, voilà, j'ai coupé, j'ai été trop vite, etc., simplement sans me culpabiliser, parce qu'en fait, le problème devient de la culpabilité aussi, parce qu'on fait des choses... Ça va pas bien. Et en plus de ça, on sent coupable.
Ça c'est terrible, la culpabilité.
Ça fait que on a même plus. Ça nous fait encore plus foncer, quoi, dans l'histoire, quoi. Ça nous fait tomber encore plus bas dans la trou, quoi. Mm-hmm. Donc, on va dire à ce moment-là, je dis, ok, d'accord. Excuse-moi, j'ai été un peu rapide. Je reviens en arrière. On recommence et je le reformule ce qu'il était en train de dire, par exemple. Mm-hmm. Donc, ça fait que lui, il sent que, d'accord, même s'il commence à sentir un petit peu d'irritation qui commence à monter parce que j'ai été trop vite, ou... il sait que, d'accord, j'ai reconnu, et je suis revenue et je lui laisse cet espace. Et le fait de savoir ça, ça fait tomber la pression.
D'accord. Donc, c'est important de reconnaître aussi quand on a coupé la communication ou quelqu'un. Ouais.
Le fait de clarifier ce qui se passe entre deux personnes, clarifier les intentions, c'est quoi ton intention, pourquoi tu me parles de ça, qu'est-ce qui est important pour toi, ça c'est une des bases, je trouve, essentielles. Si quelqu'un vous parle et qu'un seul coup il y a quelque chose qui se passe, et déjà essayer de clarifier. Mm-hmm. Pourquoi tu me parles de ça, quelle est ton intention, qu'est-ce que tu veux me dire. Et après, on peut refléter un peu ce qui te passe. Je vois que cette situation te trouble, te met en colère, t'attriste, etc. Est-ce que c'est bien ça pour toi? Donc ça, c'est important, je pense, de valider ce qui se passe. Alors, on a aussi apporté, parce que le temps passe, hein, On a aussi apporté parce qu'on a, il y a des attitudes lors de l'écoute qui sont qu'on retrouve un peu tout le temps. Et là, c'était, on avait envie de partager ça pour que ça puisse donner aussi des idées aux personnes. Voilà. Quand quelqu'un vient nous voir et nous parle, on peut avoir différentes attitudes, je disais. Donc, alors, il y a l'attitude du conseil. On peut être dans une position de conseiller la personne.
Alors, ça, voilà. C'est pas souvent bien accepté.
Alors, ça dépendrait de la solution. Si, par exemple, je prends un étudiant qui vient à un centre d'orientation...
Oui, il a besoin de conseils, celui-là.
Voilà, par exemple, là, il est content d'être conseillé. Bah, tu as telle filière, telle possibilité. Donc, alors là, on dit proposition faite, plus ou moins directive, en fonction de ce qu'on pense être la bonne solution. Donc là, l'avantage, on va dire, c'est informer des solutions possibles, donner des pistes, apporter de l'espoir, des possibilités. Donc ça, c'est intéressant dans ce cas-là. Après, quand on donne trop de conseils et qu'on ne laisse pas la personne découvrir aussi ce qui est important pour elle, on va effectivement diminuer son autonomie, sa motivation qui peut baisser, parce que finalement, elle sent qu'elle n'arrive pas à elle-même sentir ce qui est important pour elle. Voilà. Et puis, le danger, c'est que les solutions qu'on lui propose ne correspondent pas à ses besoins.
Et oui.
Et dans ces cas-là, la personne, elle va même être en conflit intérieur. J'ai ce problème, hein, on conseille ça, mais ça ne marche pas. Moi, je peux donner des tas de cas où j'étais voir des gens pour des problématiques, etc. Et des fois, entre professionnels, on se retrouve avec des opinions très différentes. Alors, on est vraiment bien embêtés. Hein. Bon, je peux oser en parler, ouais. Mais par exemple, je cherche un soutien pour la diététique, par exemple, et je vais voir deux ou trois personnes, et à chaque fois, les conseils sont différents.
Et oui.
Alors, il y en a une qui dit faut pas manger salé, d'autres faut manger salé, d'autres faut prendre des fruits, un jus de fruits le matin. Mais non, faut pas prendre de jus de fruits parce qu'il y a du sucre dedans et ça va faire monter votre glycémie. Mmh. Donc, on est un peu. Les gens sont en position de conseil et ne sont pas forcément à l'écoute de ce que les gens ont déjà vécu, de ce qu'ils ont déjà expérimenté.
Qu'est-ce qui les convient.
Ce qui les convient. Donc, ça, c'est tout ce qui est l'attitude de conseil. Voilà. Donc, c'est à nous de doser. Il y a des fois où c'est opportun, des fois, ce n'est pas. On peut donner un conseil aussi et puis demander qu'est-ce que tu en penses de ce conseil, qu'est-ce que tu... C'est peut-être la solution, ce serait pratiquement. Je te conseille ceci et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu sens que tu vas pouvoir le mettre en place, l'utiliser? Je pense que toujours le fait de valider ce que la personne vit, etc. Après, il y a une deuxième attitude qui arrive, c'est donner son avis. On peut aller de l'avis jusqu'au jugement. L'avis, c'est plutôt léger. À mon avis, ce que tu fais là ou ce que tu proposes, ce n'est pas tout à fait dans le cadre, dans les valeurs, etc. Alors, ça peut être intéressant parce que ça peut prévenir la personne du respect du cadre, justement, de la structure, etc. Tu as envie de faire ça, mais là, dans le cadre, ici, ça ne correspond pas. Voilà, ça ne va pas être accueilli facilement. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, c'est limitatif, c'est le blocage, c'est la référence, c'est normatif. Voilà. Et donc, ça peut aussi empêcher la personne de s'exprimer, de sa créativité, d'être elle-même, etc. Et la culpabiliser, évidemment. Voilà, ce que tu fais, c'est pas bien. Jusqu'au jugement, toi, c'est pas acceptable, etc. Donc ça, c'est deuxième attitude. Bon, il y en a encore deux, trois autres. Je vais quand même continuer. Alors, le soutien, apporter du soutien et du réconfort. Alors ça, c'est intéressant parce que soutien, quand quelqu'un est en... Bon, on va parler de quelqu'un qui vient nous parler d'une peine qu'elle a eue, une tristesse, etc. On peut être dans l'attitude de soutien, c'est tout à fait normal et c'est utile parce que tout le monde a besoin de chaleur humaine. Voilà. À long terme, si ça devient une habitude, on est plutôt à ce moment-là dans la dépendance affective, les attentes affectives excessives et la personne... aussi n'apprend pas à être autonome par rapport à ses affects et à ses besoins de prendre soin d'elle. Toute une question de dosage, et puis on est tous différents. Donc voilà, il n'y a pas de règle encore. Voilà. On peut peut-être avoir, je pense, des enfants qui sont très autonomes, et d'autres enfants qui ont besoin de plus d'affection, de câlins, de présence. Et puis, c'est peut-être ni bien ni mal, c'est juste c'est. Voilà, il faut juste accueillir que c'est comme ça. Donc là, on était dans le soutien, on continue. Bon, il y a des fois aussi des personnes qui sont dans l'enquête. Alors, un autre obstacle à la communication, c'est chercher trop d'informations, poser trop de questions. Et donc, on rentre, on peut fouiller comme ça, on a plaisir à fouiller un peu dans l'intimité de l'autre, enfin, on fait un temps de psychanalyse de l'autre, mmh. enfin, questionnement trop intime, etc. Et la personne va se sentir aussi peut-être envahie mmh. Dans son intimité, et ça va l'empêcher de dévoiler, d'être juste ce qu'elle voudrait être, parler de ce qu'elle voudrait, dévoiler des choses qu'elle n'a pas envie de dévoiler. Voilà, et donc il faut pouvoir être aussi dosé entre le fait de trouver quelques informations complémentaires qui peuvent nous aider à comprendre la situation qui est importante, et puis le côté d'être trop intrusif. Voilà. Alors, ça, c'est tous les obstacles. La bonne attitude, ça resterait quand même un mélange d'écoute, de compréhension, de reformulation, qui permet d'être plus près de la parole de l'autre en gardant une certaine distance. Voilà. Alors, il y a différentes manières de reformuler. On peut refléter une émotion. Ah, je sens que tu es triste, je sens que tu es troublé par cette situation, que tu es touché. Enfin, il y a différentes manières. Et là, ça nécessite d'apprendre un vocabulaire aussi. Mmh. Voilà. L'avantage, ça va favoriser l'expression. Voilà. Et de permettre à la personne de se dévoiler à son rythme. Là.
Et souvent, quand on est touché par une réflexion. Enfin, ce qu'on appelle les, toi, de toute façon, t'es comme ça. Enfin, quand quelqu'un ouais. Et qu'on reste bloqué sur une injonction comme ça, qu'on va pas chercher plus loin parce que ça nous atteint tout de suite, c'est pas bon non plus, quoi. Parce qu'il faudrait des fois on interprète aussi. On interprète beaucoup.
Enfin, l'interprétation, oui.
Ça prend une phrase prend un sens tout à fait différent suivant qui la reçoit. Et son vécu. Et...
Donc, pour moi, interpréter, il faut demander de clarification.
Voilà.
Je pense que c'est ça qui est important. Dire, voilà, j'ai une hypothèse à te proposer. Mm-hmm. Je ressens que ça pourrait être ça. Est-ce que c'est bien ça pour toi? Et vraiment valider à chaque fois
ouais.
que c'est bon pour l'autre.
Alors, pour moi, tout ce qui est... On a parlé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est bien, pas bien, comment écouter, pas écouter. Mais l'essentiel qui reste dans une heure. Écoute, c'est quand même la relation. Qu'est-ce que j'aimerais sentir ou vivre avec la personne qui est en face de moi? C'est toujours ça qui va nous motiver, je crois, à la fin de faire cet effort, de mieux faire. Parce que
oui, l'objectif... suivant la personne avec qui on n'a pas forcément envie d'améliorer la situation.
Voilà. Oui, c'est d'abord l'attention. parce que...
oui, salut, voilà, c'est ça.
C'est
ça dépend aussi de l'attention. Quelle est mon attention dans cette communication ou dans cette relation, en fait, c'est surtout ça. C'est par rapport à ça que...
Nous, on est plus là en train de parler de relations familiales, interpersonnelles, plutôt de gens proches. Là, on a parlé de ça. On n'est pas dans des relations où l'intention est plus, par exemple, d'interroger un élève parce qu'il faut qu'il réponde à un examen. Quoi. Alors, donc, c'est pas la même intention. Là, on veut valider ses connaissances. Donc, on était plus dans le registre. On s'adresse plus à ce registre-là. C'est important de le situer aussi.
De toute façon, quelle que soit la personne en face, ce qui est important pour nous, c'est ce qui passe à l'intérieur de nous. Hein, donc, quelle que soit la personne qu'on n'a même pas envie de garder la relation avec lui, mais c'est comment est-ce qu'on va gérer même ce qui s'est passé, parce que ce qui va rester en moi, ça restera avec moi, même s'il disparaît de ma vie complètement. Comment est-ce que je vais gérer ce que j'ai, ce qu'il a provoqué ou ce qui a provoqué en moi cette situation. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut dire qui passe dans la parole, c'est vraiment quand même la gestion de ses propres ressentis. Et pour ça, c'est vrai qu'on revient à la même chose dès le début. Comment est-ce que je vais m'apaiser? Comment est-ce que je vais revenir envers, avec moi et avec les autres?
Oui, parce qu'il y a toujours la phrase « on ne peut pas plaire à tout le monde ». Voilà, il faut encore accepter de ne pas plaire à tout le monde et de faire un travail sur soi en fonction des relations.
Ouais. C'est un peu, je sens que c'est le... Mon épouse, elle focalise beaucoup sur cette attitude intérieure et ce ressenti intérieur. Voilà. Je pense qu'une prochaine émission, on va parler des différentes personnalités. Mm-hmm. Parce qu'on n'est pas tous faits de la même manière, on n'a pas tous les mêmes intentions. Par exemple, il y a 25% de la population qui est plutôt dans l'empathie, dans l'accueil, et 5% d'hommes. Donc, bon, c'est des statistiques qui ont été faites par des études de personnalité. Mm-hmm. Et donc, il y en a qui sont plutôt dans la réalisation, dans le fait de réaliser des choses. d'une manière parfaite, organisée, structurée, etc. Et donc, c'est, je parle de ça parce qu'on peut pas être, on n'est pas tous capables d'être. C'est pas tous notre rôle d'être à l'écoute. Enfin, c'est pas que c'est pas notre rôle, mais tout le monde n'a pas la même manière,
capacité,
la même intention. Et ici, elle parle de l'intention. Alors peut-être qu'elle, finalement, son intention à elle, c'est de garder le lien, parce que c'est une personne plutôt dans l'empathie, dans l'accueil et dans le. Elle aime bien prendre soin des autres, donc c'est sa personnalité. Et donc, c'est ce qu'elle aime partager. Et donc, quand on parle d'elle, elle va parler de cet aspect-là. Mais quelqu'un d'autre qui va être plutôt dans le fait de promouvoir quelque chose, il est promoteur de quelque chose, lui, c'est l'important, c'est de ne pas faire passer ses idées, faire, influencer, être dans une communication d'influence, donner des arguments, etc. Et on n'est pas dans la même, dans le même canal de communication. Voilà. Mmh. Donc, il y a un canal empathique, mais il y a un canal qui est plutôt... un directif, par exemple, il y a différents canaux de communication. Donc, ça sera l'occasion d'en parler à une prochaine émission. On donne un peu le thème pour une prochaine fois, voilà, parce que t'approches.
Voilà. Eh bien, je vous remercie, Alexandre et Yachi Alexandre, donc de l'association Quiétude. Merci à vous deux.
Merci à
bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.